radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application.
Et vous écoutez France Culture. C'est le Minotaure qui a avalé le labyrinthe. Jean Cocteau. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui tentera ce soir dans le cadre du grand hommage rendu par France Culture à Marcel Proust à l'occasion du centenaire de sa mort de déchiffrer l'un de ses plus complexes personnages, en tout cas le plus mauvais genre, Palamède de Guermantes, baron de Charlus. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre proustien ce soir, dans le cadre, je le répète, de ce grand marathon radiophonique qui nous permet d'évoquer chacun, dans chaque émission, chaque producteur à son heure, toutes les facettes les plus variées, les plus inépuisables de l'univers de la recherche du temps perdu et de l'univers de Marcel Proust. Mon invité ce soir pour parler de Charlus sera Jean-Marc Caranta, bonsoir.
Bonsoir François Jeudi.
Alors Jean-Marc Caranta, professeur à Aix, proustien émérite. Et la preuve en est, donc, le publication que vous avez faite chez Bouquin, la collection, donc, de la première version, on peut dire, de la recherche du temps perdu, refusée unanimement par tous les éditeurs, et que vous avez religieusement, méticuleusement édité.
Oui, c'est ça. Mais c'était un document qui dormait dans les cartons de la BNF et qui était en ligne pourtant, et qui est effectivement la version que Proust a envoyée aux différents éditeurs, dont la NRF, Fasquelle et Ohlendorf, pour essayer de faire publier son roman, ce qu'il n'a pas réussi à faire, comme chacun sait, et qu'il a réussi ensuite à faire publié chez Grasset par Bernard Grasset, qui lui n'a pas du tout lu le livre, mais cette fois à compte d'auteur. Et ensuite, il a énormément travaillé, et de ce premier gros manuscrit qui était trop long pour paraître en un seul volume, il a tiré deux volumes.
Voilà.
Du côté de chez Swann en 1913, et puis La Guerre aidant, et Agostinelli justement aidant aussi à développer un personnage féminin qui prendra le nom d'Albertine, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, cette fois en 19, avec le succès qu'on connaît, puisque il obtiendra pour cela le prix Goncourt.
Tout à fait. L'autre ouvrage que vous venez de publier, on va en reparler dans quelques minutes, c'est Un amour de Proust aux éditions Bouquins Documents, donc de Jean-Marc Caranta. C'est sur le mystérieux Alfred Agostinelli, qui fut sûrement le dernier grand amour de Marcel Proust. On en saura un peu plus dans quelques minutes, mais d'ici là, avant, on va ouvrir non la recherche, mais ce qui est notre recherche du temps gagné. Alors c'est avec vous Céline Duchesnay, ce
bonsoir.
Soir à l'Encyclopédie Pratique.
Alors ce soir, il s'agit de l'artiste Benoît Pierron, qui, m'avait-il prévenu avant que je n'arrive, partage un atelier avec un fantôme.
Je crois que je travaille sur la survivance et sur finalement que faire d'une survie. J'ai un travail, par exemple, un travail de patchwork où j'assemble des draps réformés des hôpitaux qui portent encore la trace de leurs précédents usagers. C'est lié aussi à mon histoire personnelle par rapport à l'hôpital, la maladie, ce type de choses. Donc oui, je crois que c'est par rapport à une survivance. Ici, on est dans un atelier. C'est l'atelier de Georges Jean-Claude, qui est un céramiste, qui est connu pour avoir fait des grandes sculptures en bronze ou en terre cuite. Et du coup, nos deux œuvres se côtoient. Donc les œuvres de Georges, qui sont stockées ici sur les étagères, sont sous des bâches. Et ça tombe bien parce qu'il travaille sur la survivance et aussi sur le fait de mettre en sommeil certaines choses et que le bonheur peut exister que dans le sommeil.
Pourquoi vous parlez de fantôme ?
Parce qu'il est décédé il y a 23 ans, ce qui fait que c'est une présence assez fantomatique et qu'on voit aussi avec toute cette ambiance de bâche. À chaque fois que je commence à coudre, j'aperçois une tête ou une figure. Donc il y a vraiment une présence, c'est un lieu qui est assez contraint.
Benoît Pierron pratique un art de la survie, car la maladie a toujours fait partie de son quotidien. Il a ainsi commencé à créer des pièces depuis les chambres d'hôpitaux qu'il a habitées. Une tentative de fertiliser le silence, explique-t-il, de donner une plasticité à la maladie pour la rendre belle. Depuis une dizaine d'années, il crée à partir des draps réformés des hôpitaux des patchworks couleurs pastel, des couleurs qu'il perçoit comme l'héraldique des alités. Il en fait des napperons, des capes, des plaides, une façon de donner une existence artistique et politique à la maladie et aussi de porter la voix des autres, ceux qui n'ont pas survécu. Rencontrer Benoît Pierron dans son atelier, c'est se retrouver devant un artiste qui transforme du bout de ses doigts les matières, les objets, pour y insuffler une vraie poésie, que ce soit les dialogues qu'il crée avec des corbeaux grâce à son apôtre, ces moments où il s'intéresse à la nourriture des licornes à partir des plantes brodées sur la célèbre tapisserie médiévale de la chasse à la licorne. Il retrouve le nom de ces plantes, récolte leurs graines, les encapsule avant de les planter dans le sol. Et qui sait, peut-être avez-vous en bas de chez vous un petit bosquet planté par Benoît Pierron. Les plantes sont ses alliés. Ils conservent leurs graines dans un pilulier géant où l'on peut même trouver des graines de fleurs létales.
Alors je m'intéresse aux plantes létales, ça fait un petit moment. À l'origine, c'était dans l'idée de pouvoir conserver un contrôle sur ma propre mort. Du coup, je me suis dit que la mort pouvait peut-être m'être apportée par la vie et par un autre type de vivant qui est le végétal. Donc je me suis intéressée... j'ai commencé à me documenter au Kew Garden, à voir quels étaient les types, les parfums, et travailler la plasticité de la mort, parce que certaines plantes peuvent apporter différents types de mort. Et du coup, j'ai une sorte de petit répertoire, comme ça, avec différentes saveurs, qui me permettent de semer, finalement, la mort, d'en prendre soin, de la garder en vie, et dans une jardinière ou dans un bosquet. La manière dont finalement j'en ai fait une pièce, c'est sous la forme de petites gélules. Pour moi, c'est aussi une manière de la mettre à distance que de l'avoir à côté de moi.
Mais j'ai l'impression que dans votre travail, il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort. Vous n'avez pas une représentation binaire des choses.
Effectivement, pour moi, la vie et la mort, c'est... J'ai beaucoup de mal avec ce concept-là. Il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé d'exposer. J'ai fait également une grande touffe d'herbe. J'ai repris la grande touffe d'herbe de Dürer. Et c'était une exposition sur le vivant. Et en arrivant à la première réunion avec les autres artistes, j'ai dit que si on pensait au vivant, il fallait quand même qu'on pense aussi à la mort. Parce que c'est un cycle. Et du coup, on a commencé à penser à comment la disséminer. Donc, par l'intermédiaire de ces petites gélules, c'est une manière de lui donner une existence en dehors des limites géographiques et temporelles de l'exposition. Mais on a aussi pensé au compost, finalement, au fait que ce soit un cycle. Et la maladie apporte cette... En fait, finalement, quand on est malade, on n'est ni dans la vie, ni dans la mort. On est dans une sorte d'équilibre entre ces deux pulsions, dans un temps plat, celui des salles d'attente. Mon atelier rêvé, ce serait vraiment une salle d'attente. Parce que pour moi, c'est assez proche de ce qui se passe dans le processus créatif des artistes. C'est faire émerger des choses du temps plat. Et finalement, le white cube des chambres d'hôpital n'est pas si éloigné que ça de celui des galeries ou des musées. J'ai souvent l'impression d'être plus pensionnaire qu'exposant quand je suis dans une expo.
L'univers de Benoît Pierron est à découvrir dès maintenant dans le cadre de l'exposition « Forme du transfert » au Magasin Généraux de Pantin, et ce jusqu'au 13 mars. Il y montrera son lit en soie, un lit à tisser les rêves et fertiliser les nuits. On le retrouvera aussi dès le 5 février à la Galerie Sultana à Paris, à l'occasion d'une exposition collective, où il présentera notamment ses peluches chauves-souris, son paravent médical en patchwork et un instrument pour naviguer entre les 5 points cardinaux, à voir jusqu'au 19 mars. Et je ne saurais oublier les fans de licornes qui, eux, auront rendez-vous le 6 février au Centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine. Benoît Pierron y proposera un atelier de guérilla, gardening et d'herborisation du passé. C'est sur réservation. Et pour plus d'informations sur Benoît Pierron, rendez-vous sur la page de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cette entrée fort proustienne d'ailleurs de Benoît Pierron dans Mauvais Genre. Jean-Marc Carantin, on a quand même un univers. J'ai noté la magnifique expression l'héraldique des alités. C'est assez proustien, à mon avis.
Absolument proustien. Ah oui, je pense qu'il aurait adoré cette expression-là et que ça lui va bien finalement. Ça réunit deux aspects de sa personnalité. Effectivement, la fascination pour, on va en reparler pour Charlus, la fascination pour le monde aristocratique et son histoire. Et puis, cette vie passée dans le beau drap, quand même, tout le temps, effectivement, dans son lit. Et puis, cette exposition d'un lit aussi. Là, on est...
À tisser les rêves.
À tisser les rêves.
Fertiliser les nuits, c'est tellement joli comme expression. Ouais.
Et ça, c'est... Voilà, son lit est au... Le lit de Proust est au musée Carnavalet, dans l'exposition Proust en roman parisien. Et c'est vrai qu'avoir un autre lit non loin de là, qui fait écho, un lit plus contemporain, c'est une belle idée, oui.
Mais question Jean-Marc Carantin, est-ce que la figure, on connaît tous évidemment le tableau de Jacques-Émile Blanche, qui est l'illustration numéro un de Proust, est-ce qu'il a inspiré des portraitistes, je sais pas, parce qu'il y a un Proust par Francis Bacon, par Andy Warhol, par je ne sais qui d'autre.
Warhol, pas que je sache, Bacon non plus, me semble-t-il. Il y a des, il a pas mal inspiré sur son lit de mort, puisqu'il y a, plusieurs portraits, notamment de Man Ray, du Noyer de Segonzac. Mais il y a non, après, il n'a pas fait de... Ou alors en parodie, comme Marilyn Monroe par Warhol, par exemple.
Merci Céline, donc, et puis à très vite.
À la semaine prochaine, peut-être.
À la semaine prochaine, dans Mauvais Genre, en tout cas. Ce soir, donc, Proust à l'affiche de notre émission. Et un de ses personnages les plus puissamment mauvais genre, le baron Palamède de Charlus. De Forain, Jean-Marc Carantin, ça vous êtes inspiré dans votre recherche par justement les musiques contemporaines de Proust, enfin celles qui sont sûrement citées sans l'être.
Oui, forcément, oui, quand on s'intéresse à Proust, on écoute la musique française de cette époque-là en particulier, même si je suis plus porté vers l'opéra italien et les opéras de Mozart, mais c'est vrai qu'on se familiarise avec cette musique-là et puis aussi avec ce que Proust appelait la mauvaise musique.
Ah, surtout.
Voilà, la musique du mauvais genre, voilà. et celle des cafés-concerts, et ça j'en ai pas mal écouté parce que j'ai découvert que Alfred Agostinelli justement était très intéressé par cette musique-là et que probablement, Proust, tu as offert un piano là pour l'aider à devenir pianoliste et à avoir une activité peut-être moins dangereuse que l'aviation.
Voilà un extrait de Forêt en ouverture de notre playlist ce soir dans Mauvais Genre, conçu bien sûr par Laurent Polleray. Alors j'évoquais votre deuxième ouvrage paru récemment, Jean-Marc Carantin, Un amour de Proust chez Bouquin, qui a obtenu la Madeleine d'or, qu'on appelle aujourd'hui plus sérieusement, plus gravement, le prix du cercle proustien. C'est un ouvrage qui est consacré à Alfred Agostinelli, qui a été le secrétaire, le dactylographe presque de Marcel Proust, dont Proust était follement amoureux, au point même de l'installer chez lui avec son épouse, l'épouse d'Agostinelli, et de lui offrir, de l'utiliser comme chauffeur au début, et puis après de lui offrir un avion, une sorte d'aéroplane, comme on disait à l'époque, aéroplane dans lequel il se tue en 1914. Ça nous permet, avant de parler de Charlus, et en lien avec Charlus, d'évoquer Jean-Marc Carantin, la place des petites gens, des domestiques, des ouvriers chez Proust, qui est une place privilégiée. Les privilégiés sont peut-être pas ceux auxquels l'on pense, puisqu'il le lien qu'il a avec Françoise est un lien, sa domestique, sa gouvernante est un lien extrêmement intense et presque initiatique par moment, sur la nourriture, la gastronomie, le comportement et tout. Et puis on voit passer en permanence des domestiques, puisque le monde que fréquente le narrateur de La Recherche du Temps Perdu le veut, et puis des artisans. Il y a quand même un prolétariat et un petit monde, un monde de petites gens proustiens, Jean-Marc Carentin.
Ah oui, bah c'est même une nécessité à l'époque, hein, c'est-à-dire que ce sont des... Je crois que c'est Céleste Albary qui a dit à Proust, mais heureusement que vous êtes né riche parce que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit de pratique, et donc heureusement que vous avez des petites gens autour de vous. Et donc Proust a grandi et a vécu et est mort vraiment dans l'environnement des autres et de ses domestiques. Et c'est vrai aussi effectivement pour l'écriture où il a eu sur la fin besoin de Céleste. On a son valet de chambre Nicolas Cotin qui a recopié des morceaux entiers de brouillon, de la dactylographie justement qui a servi ensuite à imprimer Le Temps Perdu. Donc sans domestique, il est démuni et il a conscience de cela. Il y a une très belle phrase dans un des carnets qui est « On dit qu'on ne parle pas des choses importantes, mais les choses importantes, c'est l'électricien qui creuse pour faire passer l'électricité ». Et cette idée que la chevalerie moderne, ce sont les électriciens, justement. Et donc, il y a vraiment une fascination pour des gens qui ont le sens pratique,
voilà,
qui sont capables dans un domaine où lui est totalement démuni. Céleste raconte qu'il ne sortait jamais avec ses clés, quoi. Il n'a jamais ouvert une porte lui-même. Donc, il y a vraiment un handicap pratique de la part de Proust qui lui rend indispensable la présence des autres.
Et j'irai même encore plus loin, Jean-Marc Carentin. Le mauvais genre proustien n'est pas tant dans cette homosexualité, dans le voyeurisme, dans des descriptions, des personnages comme ça scandaleux. Il est aussi dans la vision qu'il avait des arts. Parlons de mauvais genre. Il n'y a pas de hiérarchie des arts chez Proust. Un bœuf mode bien réalisé par Françoise est aussi important qu'un tableau de Whistler. Une chanson génialement interprétée par Jeanne Avril vaut un sonnet de Mallarmé. C'est peut-être le mauvais genre proustien. Il est peut-être d'abord et avant tout dans cette fin de la hiérarchie des arts et de perception spontanée comme ça, des bonheurs de la vie sans hiérarchie académique.
Alors il y a une hiérarchie académique, c'est-à-dire il est très marqué par la philosophie romantique allemande, notamment par Schopenhauer qui lui hiérarchise les arts. Alors Kant aussi, mais vraiment Schelling et Schopenhauer qui sont qui hiérarchisent les arts, et donc la musique notamment pour Schopenhauer qui est l'art par excellence. Alors ça c'est sa formation, et puis ensuite pour devenir soi-même il faut se débarrasser de tout ça. Ça a été l'objet de mon premier livre sur Proust qui s'appelle Le génie de Proust, justement, où je montre comment il a ce fond philosophique et comment il s'en débarrasse. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a un très très beau mémoire de Master 2 qui a été soutenu l'année dernière par Guillaume Secaldi sur cette question de la nourriture, et qui finalement, non seulement un bon bœuf mode peut équivaloir à une bonne page de Proust, mais c'est peut-être même le vrai modèle esthétique. C'est peut-être même du côté de la cuisine et du côté de la pratique culinaire et de la nourriture que ça se trouve.
Il compare même le bœuf engelé à une véritable magie littéraire, puisque la gelée, qui est comme du cristal, si mon souvenir sont bons, arrive à cohérer, comme ça, à faire tenir ensemble tous les éléments, et donc c'est elle qui est l'architecture du c'est une vision très presque esthétisante et presque formelle.
Ah oui, c'est formel, et c'est exactement ce que cherche Proust, hein. On parle de ces longues phrases qu'il caractérise, et c'est vrai que la longue phrase permet justement de tenir ensemble des morceaux de sensations différentes et de les faire exister à l'intérieur d'une unité qui est celle de la phrase, qui restitue une sensation globale. Et c'est effectivement ce qui se passe avec le bœuf engelé, où la gelée coagule des morceaux de carottes de bœuf qui sont épars et différents.
Alors quelqu'un qui vit en permanence aussi au contact, je dirais, du peuple, de la domesticité, c'est le baron de Charlus, pour des raisons qui sont souvent des raisons érotiques, de chasse, comme ça, de prédateur et de victime, puisque les choses finissent quand même sous une forme assez singulière, on va en parler. Alors Charlus, c'est notre sujet de ce soir, j'aimerais qu'on parle d'abord de son nom, cet extraordinaire prénom, Palamède de Guermantes, baron de Charlus, Palamède. Le choix de, c'est comme Napoléon, le choix de Palamède n'est quand même pas indifférent dans la recherche du temps perdu.
Ah oui, puis la plupart d'ailleurs des noms et des prénoms, effectivement, Palamède.
C'est le,
voilà, il y a un jeu sur les sonorités, sur, il y a un petit côté palmipède aussi.
Voilà, c'est ça, ce que j'allais vous dire.
Qui symbolise assez bien le personnage. Et puis on a effectivement cet ancrage dans une vieille aristocratie européenne, puisque là on est du côté des princes de Sicile avec Palamède, et donc une des racines qui plonge glorieux dès avant Charlemagne.
Parce que Palamède de Guermantes choisit le titre de baron de Charlus, mais aurait pu en choisir bien d'autres, puisqu'il est duc, puisqu'il est prince, et que en définitive pour Proust, Jean-Marc Carentin, c'est peut-être le concentré de toute l'aristocratie européenne.
Oui, c'est ça. Hein. Je crois que c'est une incarnation d'une Europe qui existait avant notre Europe et qui est effectivement cette internationale européenne de l'aristocratie où on a des alliances avec des gens qui sont dans des pays très différents. Et alors, il est prince de Carency, il est prince de Viareggio. Alors peut-être parce qu'il y a un très bon carnaval qui existe depuis 1873 à Viareggio. Peut-être aussi parce qu'Alfred Agostinelli était de cette région-là d'Italie. Duc de Brabant, prince d'Oléron, damoiseau de Montargis. Alors,
damoiseau de Montargis,
c'est un titre qui n'existe pas. Mais c'est magnifique, surtout quand
Staline
on connaît...
Staline était ami des marins, vous voyez. Donc il y a des titres un peu singuliers. En
fait. Voilà, et je pense... Et alors, le titre de Charlus, de baron de Charlus, vient... Alors, je pense qu'il y a deux, il apparaît très tard, c'est-à-dire il apparaît juste quand Proust passe du temps perdu à du côté de chez Swann, le nom apparaît à ce moment-là sur les épreuves et sur une dactylographie à laquelle travaille Agostinelli, justement, printemps 1913, et dans un carnet où Proust note baron, puis marquis, et ensuite il raye marquis de Charlus, et très probablement avec deux origines. La plus connue, puisque Maurice Duplay, un ami de Proust, en a fait l'hypothèse et l'a même affirmé dans un article, dans un ouvrage sur ses souvenirs de Proust, ce serait donc Charlus, Napoléon de Fer, le chanteur de cabaret.
Il y a Paulus,
il y a Paulus et il y a Charlus, qui est un de ceux qui a été un des premiers à enregistrer. Et ensuite, donc, il y a Michel Gury qui a fait tout un livre là-dessus, en tirant énormément sur cette ficelle-là. Et moi, j'étais pas loin d'adhérer totalement à cette idée, en tout cas, d'un Charlus, parce que le nom apparaît dans l'environnement d'Agostinelli, qui est passionné par le café-concert, et très certainement d'une discussion aurait pu naître cette idée de Charlus.
Alors, il y a des noms aristocratiques qui sont en us, l'Ursalus, par exemple, mais il y a aussi la marquise de Putbus,
dont
le nom est assez caractéristique. Us, c'est quand même un final un peu, je dirais, mauvais genre.
Ah ben oui, c'est un peu, ça rime avec bien des choses.
Voilà.
Effectivement, et c'est tout à fait café-concert. Mais alors, il y a une autre étymologie, une autre origine possible, c'est Madame de Charlus, qui apparaît dans le temps perdu, qui est une sorte de construite en parallèle avec Madame de Sévigné, puis qui va disparaître. Et cette Madame de Charlus a bien existé. Elle apparaît dans les mémoires de Saint-Simon, et elle partage avec le Charlus chanteur quelque chose qui est la vieillesse et la crasse, en quelque sorte. L'anecdote qu'il a, où il est question d'elle dans les mémoires de Saint-Simon, c'est l'époque où les perruques sont très grandes, le feu prend à sa perruque et on lui fait tomber sa perruque, et là on voit, sous cette perruque magnifique, on voit des cheveux sales, grisonnants, etc. Et puis il y a le château de Charlus, qui est un château qui existe en ruine maintenant, mais dans le Cantal, dans le Massif central, et qui a très bien pu aussi inspirer Proust. Et effectivement, là, on est dans une famille qui est ancrée dans la noblesse européenne depuis très longtemps. Et le titre de baron de Charlus est peut-être, alors Proust ne le dit pas, mais peut-être un titre de baron d'Empire, de Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une noblesse immédiate, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'un roi, mais qui dépend de l'empereur lui-même.
«
Il s'était maintenant accoudé devant le jardin, à côté de l'ambassadeur d'Allemagne, à la rampe du grand escalier qui ramenait dans l'hôtel, de sorte que les invités, malgré les trois ou quatre admiratrices qui s'étaient groupées autour du baron et le masqué presque, étaient forcés de venir lui dire bonsoir. Il répondait en nommant les gens par leur nom, et on entendait successivement « Bonsoir, monsieur Duhazet, bonsoir, madame de la Tour du Pin Verclose, bonsoir, madame de la Tour du Pin Gouvernet, bonsoir, Philibert !» « Bonsoir, ma chère ambassadrice », etc. Cela faisait un glapissement continu qu'interrompaient des recommandations bénévoles ou des questions desquelles il n'écoutait pas la réponse et que monsieur de Charlus s'adressait d'un ton radouci, factice, afin de témoigner l'indifférence. Et bénin. Prenez garde que la petite n'ait pas froid. Les jardins, c'est toujours un peu humide. Bonsoir, madame de Brante. Bonsoir, madame de Mecklembourg. Est-ce que la jeune fille est venue? A-t-elle mis la ravissante robe rose? Bonsoir, Saint-Guérin. Certes, il y avait de l'orgueil dans cette attitude. Monsieur de Charlus savait qu'il était un guermante occupant une place prépondérante dans cette fête. Mais il n'y avait pas que de l'orgueil. Et ce mot même de fête évoquait, pour l'homme au don esthétique, le sens luxueux, curieux, qu'il peut avoir si cette fête est donnée non chez des gens du monde, mais dans un tableau de Carpaccio ou de Véronèse. Debussy pour accompagner l'entrée en scène du baron de Charlus dans Mauvais Genre ce soir avec vous Jean-Marc Carantin, extrait de Sodome et Gomorre. Alors c'est intéressant de voir la manière dont le personnage apparaît, se répand, commence à scintiller avec des moments brusquement d'accélération de la construction du personnage, notamment lié à l'homosexualité bien sûr dans Sodome et Gomorre, et puis qui va jusqu'à une véritable vision, on peut pas dire cauchemardesque mais apocalyptique du dernier Charlus. Comment jugez-vous la façon dont, le motif, puisqu'on est chez des Wagneriens, hein, comme les Verdurins, la manière dont le motif Charlus se répand dans la recherche du temps perdu?
Alors, il se répand à deux niveaux. Il se répand dans le fil de la narration. Et effectivement, là, dans le passage que vous avez lu, maintenant, on sait, le lecteur ne peut plus douter de l'homosexualité du baron de Charlus, puisqu'on l'a vu à l'œuvre avec Jupien dans la cour.
Alors ça, c'est au
de l'hôtel de Garnon.
L'extrait que j'ai lu, exotérique. C'est voilà, Charlus que tout le monde voit.
Voilà. C'est Charlus que tout le monde voit, mais le héros et le lecteur savent désormais qui il est. Et puis, effectivement, on va continuer à le découvrir. On va le découvrir ensuite avec Morel qui lève comme ça sur le quai de la gare de Doncières. Et puis, ensuite, on le découvrira sous un autre aspect encore plus sombre et plus sanglant, comme l'homme enchaîné pendant la guerre, dans le bordel que tient Jupien et se plaignant de ne pas avoir été frappé avec assez de force et par des gens qui, finalement, ne sont que des demi-apaches. Et puis, il y a aussi la genèse du personnage, c'est-à-dire que le Charlus du temps perdu, par exemple, il a déjà bien des traits qu'on va retrouver après, mais Proust va, à la faveur notamment de ce qu'il va vivre avec Alfred Agostinelli, et puis aussi de la première réception de son livre, à partir de 14, développer énormément le personnage. Par exemple, la scène qui est extrêmement drôle et cocasse, et qui est un indice encore pour le lecteur, lorsque Charlus fait une proposition au héros de diriger sa vie à condition qu'il l'abandonne, hein, qu'il abandonne toute prétention dans le monde et qu'il s'abandonne à lui. Cette scène-là n'existe pas en 1912-1913, elle apparaît en 1914 et très 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 tardivement, lorsque Proust a déjà envoyé les épreuves du deuxième volume à Grasset et qu'il les redemande pour ajouter cette fin-là, qui est une très belle fin et qui ensuite permettra de développer encore le personnage.
Vous croyez que vous vouliez vraiment regarder ce clair de lune avec moi?
Monsieur, la plus grande des sottises est de trouver ridicule les sentiments qu'on n'éprouve pas.
J'aime la nuit et vous la redoutez. Adieu. Ma sympathie pour vous est bien morte. Rien ne peut la ressusciter.
Monsieur, je vous jure que je n'ai rien dit pour vous offenser.
Et qui vous dit que je suis offensé? Vous savez donc pas quel prodigieux personnage je suis?
Monsieur, pour les meilleurs d'entre nous, l'étude des arts, les collections, les jardins, ne sont que des succès d'années. Du fond de notre tonneau comme Diogène, nous demandons un homme. Nous cultivons les ifs et les bégonias. Et nous aimerions mieux consacrer notre temps à un arbuste humain, s'il en valait la peine. Hélas, ça n'en valait pas la peine. Adieu, monsieur. Nous allons le quitter pour toujours. Il n'est pas indigne de moi de confesser que je le regrette.
Je me sens comme le boss de Victor Hugo. Je suis seul, je suis veuf. Sur moi, le soir tombe.
Alain Delon dans le film de Volker Schlöndorff, très émouvante interprétation du baron de Charlus par quelqu'un qui l'est devenu après avoir été peut-être d'un autre rôle dans le grand rêve qui était celui de Luchino Visconti d'adapter après avec Lauzet justement l'autre grand géant du cinéma d'adapter Proust. Alors là on a, c'est pas facile de jouer Charlus parce que la caricature est à portée de main, mais par chance quand même les trois interprétations qu'on a échappent complètement à la caricature, que ce soit Malkovich dans le film de Raoul Ruiz, Alain Delon dans Schlöndorff, ou encore Didier Sand, magnifique dans le téléfilm de Nina Companès, on a des Charlus très bouleversants.
Ah oui, ce sont à chaque fois effectivement des personnages relativement proches dans le jeu, et c'est vrai que celui qui fonde le personnage, on peut dire qui crée le rôle au cinéma et à la télévision, c'est Delon, avec à la fois une raideur tout à fait aristocratique qu'il arrive à combiner avec une souplesse complètement de danseur, complètement féminine, qui révèle aussi le personnage derrière cette volonté de se cacher en surjouant la raideur justement. Et effectivement, et Malkovich est intéressant pour l'accent.
Voilà.
Dont il joue avec des degrés différents en fonction des moments du film, et notamment à la fin, lorsqu'il y a cette germanophilie de Charlus pendant et après la guerre qui se manifeste, il est évident que cet accent américain, mais qui peut avoir des consonances germaniques, va très bien avec le personnage. Et Sandre aussi est très bon.
Oui. C'est justement là toute la question avec Charlus, c'est que c'est un personnage qu'il faut surtout ne pas rater, si j'ose dire, puisqu'il y a d'un côté effectivement l'homme-femme, l'homosexuel, l'homme qui est en chasse permanente, que ce soit dans les palais de ces familles aristocratiques, même dans la gare, dans la rue, dans le bus, dans les autobus, les omnibus, il y a une espèce d'érotisme comme ça permanent, d'incandescence érotique permanente chez Charlus, mais en même temps, donc c'est un veuf sincèrement veuf, c'est un homme qui est un musicien éminent, c'est un grand aristocrate qui est adepte du sport, c'est un personnage qui a un côté à la fois totalement fin de siècle, on va voir d'ailleurs les modèles littéraires et historiques de Charlus, c'est quelqu'un qui est totalement dans la décadence fin de siècle, dans une sorte de déliquescence sociale, et en même temps, il y a, c'est peut-être le côté grand siècle, le côté Saint-Simon, il y a un côté cintré, il y a un côté corseté, presque ascétique de Charlus. Donc ce personnage comme ça est en guerre permanente.
Ah oui, il est en guerre permanente. Je pense aussi que c'est le vrai personnage romanesque. C'est-à-dire que le héros, bien sûr, qui est narrateur aussi, porte l'essentiel de la narration. Mais son histoire, elle est finalement relativement peu intéressante sur le plan romanesque. Sa dimension philosophique, la partie initiatique et initiation à l'art et découverte d'une vocation est essentielle. Mais le personnage romanesque, c'est vraiment Charlus. Et effectivement, son côté 17e siècle, grand siècle, peut se comprendre si on pense au baroque. Je pense que Charlus, c'est éminemment un personnage baroque. C'est un pan, c'est un personnage qui joue du monde comme d'un théâtre. C'est un personnage qui est dans l'illusion. Hein. Il cherche à faire croire qu'il est quelque chose alors qu'il est quelque chose d'autre. Donc il est dans un trompe-l'œil permanent. Et on retrouve chez lui tous les aspects du baroque. Et en même temps, il y a une rigueur classique. Qui est chez lui, et en ça, il est vraiment du siècle.
Qui est celle de Proust 14. Aussi. Proust, c'est avant tout un baudelairien et un racinien, c'est pas un lecteur de l'Émir Bourges. Enfin, c'est... si, également, mais c'est d'abord avant tout un racinien, un homme.
Ah oui, c'est quelqu'un qui connaît très très bien les classiques, qui les a assimilés, je dirais presque dans son enfance, plus encore que dans sa jeunesse. Et effectivement, à le suivre dans sa relation avec Agostinelli et dans la manière dont elle se traduit dans le roman, on voit bien que Charlus, au-delà des modèles qu'on peut lui trouver, c'est Proust. Quoi. C'est-à-dire
absolument.
Qu'il y a un passage qui n'est pas passé dans le roman, mais où Monsieur Charlus est quitté par Félix, qui n'est pas encore Morel, Le texte a vraisemblablement été écrit au moment où Proust est quitté pour la deuxième fois, puisqu'une des découvertes de l'enquête, c'est de voir qu'il y a eu deux départs,
deux et non
pas
un seul,
comme on l'imagine. Et à ce moment-là, bien évidemment, ce qu'il projette dans le personnage de Charlus, c'est ce que lui-même ressent. Cette blessure d'avoir été quitté, cette peur de laisser, au vu et au su de tout le monde, quelqu'un qu'il imagine absolument désirable, et derrière qui se lève, c'est vraiment ce qu'on a dans le texte, toute une armée de tentes, hein, c'est le terme qui est utilisé, pour partir à l'assaut de ce jeune homme et lui proposer des places, de l'argent, etc., en échange du plaisir qu'il peut donner.
Alors, si on évoque Charlus tant sur le plan historique que littéraire, il y a des sources historiques directes qui sont très connues du personnage. D'abord, Robert de Montesquieu, qui est véritablement le Charlus historique, c'est-à-dire un grand aristocrate, les Montesquieu Fezensac, qui remonte quand même à une lointaine source nobiliaire française, grande figure du dandysme et de la décadence, poète, mémorialiste, collectionneur. C'est à lui qu'Huysmans emprunte les nombreux traits de Des Esseintes. Il y a un baron d'Oisans, dont l'histoire n'a pas gardé énormément mémoire, mais qui visiblement semble, par son comportement et sa gestuelle, avoir beaucoup influencé la constitution de Charlus. Et puis il y a les sources littéraires, parce qu'au départ, justement, cette espèce de mentor pédérastique qui veille sur un petit jeune homme, on est déjà avec le Balzac, Vautrin, Carlos Herrera, les mœurs de Bagnard, mais quand même qui prend soin de ce petit débutant, monde redoutable débutant qui est Rubin Pré, et Barbé d'Aurevilly, qui allait corseter dans Paris, du Second Empire, et puis qui lui a inventé aussi tout un de figures de dandy cruel, et puis bien sûr, Des Esseintes, le héros d'Arbour, et les personnages de Jean Lorrain, et Jean Lorrain lui-même. Donc on voit que, quand même, Charlus est un delta où viennent s'accumuler tout un tas de figures.
Ah oui, c'est vraiment un personnage extrêmement riche dans ses sources. Il y a le dandy, et dans le dandy, il y a Baudelaire. Effectivement, Barbé d'Aurevilly. Il y aurait Roger de Beauvoir aussi, quelqu'un d'un peu oublié, mais qui est la figure du dandy à l'époque romantique. Et donc, on a effectivement Montesquieu, qui est un des modèles de Des Esseintes, sinon le modèle, et qui va effectivement inspirer à Proust ce personnage de Charlus. Alors après, il y a effectivement Doisans, mais qui est peut-être plutôt un paratonnerre, puisque on le trouve comme modèle dans une lettre de Proust à Montesquieu, justement, qui s'est reconnu et qui considère que ce n'est pas bien. Et Proust lui dit, mais non, ce n'est pas vous du tout, c'est Doisans. Ce qui explique peut-être que ce ne soit finalement qu'une sorte de couverture.
Parce que justement, Charlus éclaire beaucoup là ce que le problème pose la figure du dandy, c'est-à-dire le dandy est tout sauf un excentrique. C'est pas quelqu'un qui est une espèce de cacatoès comme ça, espèce de personnage. C'est quelqu'un qui arrive à conjoindre la provocation, c'est le cas de Charlus, le brillant et en même temps une assesse profonde. C'est ça. C'est ce que montre bien d'ailleurs Philippe Berthier dans son livre chez De Fallois Charlus. Il y a une assesse chez Charlus. Bizarrement, enfin, il y a en tout cas une sorte d'inquiétude presque spirituelle, charnelle, et qui est vécue comme une sorte de souffrance. Enfin, il y a parlé de sainteté, mais quelque chose qui s'apparenterait à ça. Chez
oui, effectivement, hein, il y a une volonté de s'inscrire dans une assaise esthétique, de faire de sa vie une œuvre. Hein. Wilde est aussi dans cette démarche-là. Et ça conduit effectivement à une grande... rigueur dans la toilette, dans les comportements, dans les relations, et ça aussi pour conséquence, et ça Proust en joue énormément, c'est-à-dire que à propos des Fleurs du Mal, puis à propos d'Arebour de Huysmans qui met en scène des Hyacinthes, Barbé d'Aurevilly a dit, il reste la bouche du pistolet ou les pieds de la croix, dans les deux cas. Et Proust ouvre une troisième voie qui est celle de l'art. Et qui est celle de l'art non plus simplement comme moyen de faire de sa vie une œuvre, mais qui est comme une réalisation. Et Swann et Charlus partagent ce triste destin d'être ce que Proust appelle des célibataires de l'art. Ils auraient pu faire des œuvres. Ils auraient pu être des créateurs. Le narrateur dit à un moment, mais si Charlus avait pratiqué, avait tâté de la prose, il aurait été quelqu'un de formidable. Alors pas forcément un romancier formidable, mais au moins un essayiste. Et il ne l'a pas fait. Et donc il meurt sans œuvre, comme Swann. Et c'est peut-être là, si on inscrit Proust dans une tradition de l'histoire littéraire qui remonte au dandysme, c'est peut-être là que Proust ouvre une voie qui est vraiment moderne et qui est vraiment celle du XXe siècle. C'est-à-dire que moi, je m'occupe d'ateliers d'écriture aussi à l'université d'Aix-Marseille. Et un des slogans, c'est tous capables, c'est-à-dire faire en sorte qu'on réalise.
Ça, c'est très
proustien, réalise...
tous capables.
Ah ben oui, c'est ce qu'il dit, par exemple, c'est ce qu'il écrit à Pierre de Monaco quand il vient de se marier. Ça a été publié dans les Lettres au duc de Valentinois. On n'écrit pas on n'écrit pas ce que vous écrivez dans vos lettres sans être doué. Donc écrivez. Et il le dit à un jeune homme de 25 ans à ce moment-là, mais il le dit aussi à des gens beaucoup plus âgés.
Ah, c'est ce que je fais avec Agostinelli. Il dit, mais tu veux faire de l'avion? Je t'offre un avion. Tu veux faire de... Voilà.
Il lui propose Vas-y. Vraisemblablement aussi d'être journaliste, de voilà. faire du... Mais effectivement, il y a ce que Georgette Leblanc, une autre grande dame mauvais genre, appelle des sauvetages.
La sœur de Maurice.
La sœur de Maurice Leblanc.
La femme et la compagne de Maeterlinck.
La compagne de Maeterlinck, et qui raconte dans Le Choix de la Vie, par exemple, ce qu'elle appelle un sauvetage. Comment une grande dame, elle en l'occurrence, riche, va au-devant d'une petite paysanne dont, chez qui elle sent quelque chose, et surtout pour qui elle sent quelque chose, et va essayer de la sortir de sa condition. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec Agostini. Il dit, c'est un sauvetage.
Car d'après ce que j'entendis les premiers temps dans celle de Jupien et qui ne furent que des sons inarticulés, je suppose que peu de paroles furent prononcées. Il est vrai que ces sons étaient si violents que s'ils n'avaient pas été toujours repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi et qu'ensuite le meurtrier, sa victime ressuscitée, prenait un bain pour effacer les traces du crime. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. Surtout quand s'y ajoute, à défaut de la peur d'avoir des enfants, ce qui ne pouvait être le cas ici malgré l'exemple peu probant de la légende dorée, des soucis immédiats de propreté. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, pendant laquelle je m'étais hissé à pas de loup sur mon échelle afin de voir par le vasistas que je n'ouvris pas, une conversation s'engagea, Jupien refusait avec force l'argent que monsieur de Charlus voulait lui donner. Thank you. Voilà un extrait conclusif de la scène légendaire de Sodome et Gomorre où on est révélé in actu l'homosexualité du baron de Charlus qui séduit, scène véritable de parade amoureuse dans la cour des Guermantes avec Jupien le giletier, et après les deux hommes s'isolent pour consommer et tout ça avec l'oreille. Le voyeurisme est important chez Proust, là on parlait de mauvais genre, mais là il y a véritablement une dimension essentielle, que ce soit à l'égard notamment de la fille de 20 Teuil, le compositeur, qu'il surprend derrière un buisson, enfin non, lui est derrière un buisson avec sa compagne, le lesbianisme, et puis les deux scènes avec Charlus. On va lire la deuxième tout à l'heure, mais là on a vraiment quelque chose.
Ah oui, 40 ans. Alors c'est effectivement une contrainte finalement très technique. On a un récit à la première personne, et il faut que ce narrateur puisse nous raconter des choses qui concernent d'autres personnages, dans l'intimité desquels il n'a pas forcément vocation à être. Donc le voyeurisme est aussi un truc et une astuce. Mais c'est effectivement une préoccupation aussi de Proust d'aller voir, de savoir, de comprendre comment se passent les choses et notamment les choses qui concernent la sexualité. Et il est en permanence en quête d'informations sur qui voit qui fait quoi avec qui. On a des listes dans l'agenda de 1906 qu'il a utilisé en 1909 et 1913. On a des listes de domestiques et de maîtres, des adresses de bordels que fréquente.
Lui-même fréquentait, rue des Arcades, il a même offert aux bordeliers les meubles de sa grand-mère.
Voilà. Oui, il avait Albert Le Cusillat qui était son informateur, et il a vraisemblablement à travers lui commandité une maison de passe pour hommes, dans laquelle d'ailleurs il a été attrapé lors d'une descente de police.
Oui, un célèbre rapport de police, Proust, homme de lettres entier avec des militaires.
Voilà. C'est ça. Donc, il a vraiment ce désir de comprendre, et il est aussi en ça l'homme de son siècle et de sa famille. C'est-à-dire qu'il va, il veut comprendre comment se passent les choses dans une démarche clinique qui est d'ailleurs un peu celle du marquis de Sade aussi. Hein, Sade allait dans les bordels et noter ce que pratiquait chacune des personnes.
Ce qui est intéressant, en fait, ce qui est révolutionnaire dans la recherche du temps perdu, notamment Sodome et Gomorre, Jean-Marc Carantas, c'est qu'il y a véritablement une manière absolument objective, historique, transhistorique et presque clinique, vous le disiez, de poser la question de l'homosexualité. Il y a les tentes, le peuple de Sodome était une sorte d'ethnie comme ça qui existe depuis la nuit des temps. Il imagine même des sodomites reconstruisant Sodome de la même manière que les sionistes reconstruisent Sion. Enfin, c'est totalement vertigineux. Et il pense l'homosexualité comme sous une forme ethnique presque, et puis qui gère sa présence avec des signaux, des indices, des clins d'œil dans la société. Il y a véritablement une façon, on n'est pas du tout ni dans le voyeurisme, je dirais, traditionnel, ni dans le pittoresque, ni dans l'excentricité. Là, il y a véritablement une volonté de penser littérairement la question homosexuelle.
Ah oui, il se tient sur deux pieds, c'est-à-dire d'un côté, il y a effectivement cette approche très clinique qui est celle de son époque, hein, c'est les débuts de la sexologie, de la réflexion sur ce que c'est que l'homosexualité, notamment en Allemagne, à travers
Hirschfeld.
Voilà, oui, Hirschfeld. Et donc, il a cette connaissance-là, même s'il prend ses distances avec. Et puis, il y a la dimension mythologique, comme vous l'avez bien souligné, hein, François, de cette race, puisque c'est le terme qu'il utilise, hein, comme pour Israël, de cette race qui traverse les siècles, traverse les pays, et qui est à la fois, qui doit se cacher, qui doit en même temps se satisfaire. Et vraiment, enfin, les premières pages de Sodome et Gomorre sont...
Ah oui, c'est un traité d'histoire de l'homosexualité.
Ah oui, oui, c'est... Moi, une amie m'avait dit, mais j'ai des relations difficiles avec le tel de mes amis, parce que je sais qu'il est homosexuel. Et je lui ai dit, mais lis le début de Sodome et Gomorre. Et après l'avoir lu, elle m'a dit, mais oui, je comprends tout et je vois effectivement. Enfin voilà, on ne peut qu'être en sympathie quand on a lu cette cinquantaine de pages qui effectivement expose ce que c'est que appartenir à cette race persécutée. Enfin, et c'est là que se trouve d'ailleurs la phrase la plus longue de la recherche du temps perdu.
« Bientôt, on me fit monter dans la chambre 43, mais l'atmosphère était si désagréable et ma curiosité si grande que mon cassis but, je redescendis l'escalier, puis, pris d'une autre idée, le remontai et, dépassant l'étage de la chambre 43, allai jusqu'en haut. Tout d'un coup, d'une chambre qui était isolée au bout du couloir, je me semblais revenir des plaintes étouffées. Je marchais vivement dans cette direction et appliquais mon oreille à la porte. « Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi, ne me frappez pas si fort !» disait une voix. « Je vous baise les pieds, je m'humilie, je ne recommencerai pas, ayez pitié !»« Non, crapule !» répondit une autre voix. « Et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, on va t'attacher au lit, pas de pitié !» Et j'entendis le bruit du claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous, car il fut suivi de cris de douleur. Alors je m'aperçus qu'il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral dont on avait oublié de tirer le rideau. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissais jusqu'à cet œil de bœuf et là, enchaîné sur un lit comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d'un martinet en effet planté de clous qui lui infligeait Maurice, je vis, déjà tout en sang et couvert d'ecchymoses qui prouvaient que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois, je vis devant moi Monsieur de Charlus. Voilà un extrait du Temps retrouvé, là aussi, voyeurisme, toujours l'œil de bœuf. Et puis, confirmation, alors on est dans une sorte d'apocalypse érotique où le baron de Charlus est surpris en train d'être flagellé par un knout, enchaîné à un lit, lui, l'homme du Saint-Empire romain germanique. Et c'est d'ailleurs extraordinaire ce final, on est pendant la Première Guerre mondiale, et puis le narrateur erre dans un Paris nocturne. C'est une vision assez effrayante d'ailleurs de cette vision finale de la recherche du temps perdu. Et là, Charlus, comment lisez-vous cette fin de Charlus, puisqu'après le personnage va aller vers la mort très 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 rapidement. Comment lisez-vous cette est-ce que c'est pas la consommation au sens presque évangélique de son ascèse et de son martyre, le martyre de Charlus, puisqu'il y a à la fois la dimension ascétique du flagellant, la dimension du martyre, la dimension en même temps du pervers et du décadent. Il y a Prométhée qui vient se rajouter à tout ça, qui est quand même celui qui offre la vérité du feu aux hommes. Là, c'est une scène extrêmement complexe.
Ah oui, on retrouve bien les deux dimensions. Donc, d'un côté, une description très clinique du comportement, de la mise en scène sadique. Et puis, voilà, cette dimension mythologique qu'on a à travers Prométhée. Et tout le pari de la guerre est raconté comme une sorte d'évocation pompéienne d'une ville de la plaine et d'une ville qui va être qui est vouée à la destruction. Je pense que c'est un pendant de ce qu'on connaît davantage dans le temps retrouvé, donc dans le dernier volume, c'est-à-dire de cette apothéose qui conduit le personnage vers la création de son œuvre. On a ce déclin de Charlus, on a finalement l'idée de cette d'une mort. D'une acmé dans la souffrance, dans le sadisme, dans ce qu'on peut appeler le vice, dans le mauvais genre en quelque sorte.
Certes.
Voilà. Et puis ensuite un déclin vers la mort. Mais même si Charlus ne dételle pas, hein, pour reprendre une expression qu'utilise son neveu Robert de Saint-Loup, puisque encore aveugle et abandonné dans une chambre, il se retrouve en train de tâter d'un petit enfant qui est passé par là. Donc il y a cette mort de Charlus, c'est peut-être parce qu'il faut voir que chez Proust aussi, cette question de la sexualité, elle est toujours liée à une culpabilité, à une profanation. Elle est là dès le départ avec la scène à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est-à-dire celle de la scène de Mademoiselle Vinteuil.
Dont la maîtresse crache sur la photo
voilà,
de son
et
père.
Ensuite, voilà, on crache sur la photo du père. Et donc, il y a ça aussi pour le héros lorsqu'il désire rencontrer des jeunes filles, mais que sa grand-mère est sur le point de mourir, ou en tout cas très malade. Proust met beaucoup de temps à arriver à articuler les rencontres et les baisers avec Albertine, avec la mort de la grand-mère et le deuil de la grand-mère. Je pense que dans Le Temps Retrouvé, on a vraiment ces deux courants. D'un côté, le vice qui explose et qui décline. Et de l'autre, la vocation littéraire qui s'épanouit.
Mais en même temps, Jean-Marc Caranta, c'est là où on voit que la vision de Proust est extrêmement aiguë sur le plan historique, puisque je mets cette scène en parallèle avec l'humiliation publique dans le salon des Verdurins de Charlus, à qui son amant, le violoniste Morel, fait une scène en public et l'humilie véritablement. Et Charlus est pétrifié, ne dit rien. Donc il y a une première mort de Charlus, qui est une mort sociale, et il sort au bras de la reine de Parme, qui le prend sous son aile, mais qui est le personnage est annulé socialement, entre guillemets, enfin, pas complètement. Et puis là, cette flagellation qui est faite par une guape, un apache de la Bastille. Donc, il y a quand même l'idée chez Proust que c'est la fin d'une époque. Et ce qui va être le cas, puisqu'on sait bien qu'après 1918, l'ancienne carte de l'Europe disparaît. Les Habsbourg, l'Autriche-Hongrie disparaît, toutes les royautés européennes disparaissent. C'est le règne d'un autre 20, le 20e siècle commence. Donc, la mort de Charlus, c'est peut-être aussi la mort de cette Europe des rois et des empereurs, l'Europe internationale de l'aristocratie, l'Europe de la culture qui disparaît complètement.
Ah oui, c'est la fin d'un monde. Et effectivement, la scène dans le salon des Verdurins, de l'humiliation de Charlus qui s'en va au bras de la reine de Naples, c'est véritablement l'incarnation, alors là, de la dimension sociologique du roman l'affirmation de la bourgeoisie, puisque sans spoiler, on peut dire quand même que Madame Verdurin va devenir une guermante par alliance. Et finalement, lors de leur premier contact, Charlus est pris pour beaucoup moins qu'il n'est, puisque on lui dit on vous a placé ici parce qu'il y a Monsieur de Forcheville, il est marquis, vous n'êtes que baron, et donc voilà, traduisant une méconnaissance totale de la hiérarchie aristocratique. Et Charlus dit mais ici ça n'a pas d'importance. Et donc finalement, ça n'a pas beaucoup plus d'importance dans le salon Verdurin. Cette humiliation n'était l'attachement du baron à Morel qu'il vient de perdre définitivement. Et il s'en va avec la seule qui peut le sauver, c'est-à-dire la reine de Naples. Mais effectivement, ça n'a pas d'importance ici. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est devenu le monde.
Et voilà.
Voilà. Après 1918, ici, c'est le monde. Le salon des Verdurins est partout. Et effectivement, cette Europe, cette internationale aristocratique européenne où on a des alliances partout. Et donc, on peut tout à fait être favorable à l'Allemagne, même si on est français. Tout ça a disparu.
Tout ça a totalement disparu. Merci beaucoup, Jean-Marc Caranta, d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour nous présenter tenter de cerner les mystères et la complexité du baron de Charlus. Je recommande chaudement vos deux dernières publications, Un amour de Proust, aux éditions Bouquin, dans la collection Documents, qui est une enquête exhaustive qui lève le voile sur le mystère d'Alfred Agostinelli, et qui a été le dernier grand amour de Proust. Et puis dans la collection Bouquin, Le Temps Perdu, la version originale de La Recherche. Ça permet d'aller encore plus loin dans la jeunesse de ce chef-d'œuvre, de ce monument romanesque. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Guy Lamèche, Claire Poinsignon, Céline Duchesnay, Claire Martin-Dugard et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission.